Bonjour.
Voilà, c'est bon. Désolé de.
Non, j'ai pas trouvé facile.
Bon, bonjour.
Enchanté.
Oui, ça va, je vais dépoussiérer un peu.
Le grand Yves Delmas dans son grand atelier.
Oui, il est pas mal cet atelier.
Comment ?
Il est pas mal cet atelier.
Il est pas mal, oui, c'est bon qu'on puisse dire.
Alors moi, du coup, j'ai pas vu ce que vous avez fait.
J'ai rien fait. Est-ce qu'on en parle?
Non, mais l'année dernière.
L'année dernière, je l'ai pas ici le trophée.
Même pas vu.
Je peux vous montrer une photo.
J'ai cherché, j'ai rien vu.
Ouais, j'ai des photos. Ouais. C'est une petite pièce qui ressemble. Regardez, il y a une dans les buissons là-bas au fond, il y a une sorte de pyramide avec une jaune au-dessus de la chaise.
Celle qu'on voit là.
Voilà. Mm-hmm. C'est ça en plus, beaucoup plus petit. Il y a une idée de porte. C'est parce que Vincent Pérez avait l'idée. Il aimait beaucoup. Il était venu ici. Il aimait beaucoup cette pièce. Et puis il y met l'idée qu'un trophée, c'est aussi une étape, c'est pas seulement un but en soi. Et puis au fond, dans cette pièce, il y a l'idée d'un chemin qui est exprimé plutôt que d'un but obtenu, enfin d'un objectif atteint. Il y a plutôt l'idée du chemin. Alors, il y a un petit passage qui traverse, si on s'approche de la pièce, il y a des escaliers qui traversent la sculpture et qui ressortent de l'autre côté. Ça, on ne se rend pas compte à distance,
non,
mais voilà, c'est...
Même là-bas, tout à l'heure, j'ai
passé attention. Oui, parce que l'escalier est caché, comme toutes les choses importantes, elles sont, il faut s'approcher pour y voir clair. Hein.
Et comment ça se fait qu'il vous a contacté, vous? Vous le connaissiez?
Je le connais depuis tout petit.
Ah oui.
Non, pas tout petit, mais enfin, il a 3 ans ou 4 ans de moins, quoi, Vincent, et on faisait des camps de dessin ensemble quand on avait, lui, 11 ans et moi, 15, je pense.
D'accord.
Donc, c'est il y a quelques temps en arrière, on a toujours gardé beaucoup d'admiration, je crois, réciproque. Et, moi, je l'ai revu entre cette jeune adolescence et la maturité là, qu'on a l'un et l'autre. Donc, on s'est revus des fois, mais j'ai toujours aimé Vincent parce qu'il est... C'est aussi quelqu'un qui bouge, qui s'assied pas sur un confort ou sur les rôles, les grands rôles qu'il a eus. Il s'est mis à faire des scénarios, il s'est mis à reprendre le cinéma sous un tout autre angle. Et j'admire beaucoup cette capacité qu'il a de se renouveler, de se remettre en question, de chercher. Il n'a pas la grosse tête dans ce monde, c'est peut-être pas toujours courant. Et voilà, j'ai une grande, grande admiration pour lui. Mmh. Il vient aussi d'un milieu assez simple, il a dû construire lui-même sa maison, brique par brique, et donc je pense qu'il sait ce que veut dire la liberté acquise. Mmh.
Et donc, c'est cette histoire d'amitié qui a donné lieu à ce prix,
à
la naissance de ce prix. C'est beau.
Oui, c'est une belle histoire parce que moi, je suis tout content. J'aime bien le cinéma aussi. Je ne suis pas spécialiste de cinéma, mais j'adore. C'est un art qui est plein de. Qui est du mouvement. Il peut y avoir de la musique, il peut y avoir beaucoup de choses qui interviennent dedans. Il y a la direction des acteurs, il y a le scénario, enfin, il y a toutes les facettes qui font que. Lorsque c'est réussi, c'est une magnifique expérience.
Je me suis demandé justement en préparant cette rencontre, comment un sculpteur de votre acabit, on y va, vous avez quoi, 40, 50 ans de pratique, comment on regarde les films consacrés à... Il y a eu des grands films qui ont eu un certain succès, genre... autour de la vie de Camille Claudel ou de Rodin. Comment est-ce que vous voyez ces films-là en tant que... acteur vous-même?
Oui, il y a rarement des films où on remet en scène le Rodin, il m'a énervé, pourtant avec un acteur, ça c'est génial, celui qui est sorti dernièrement. Je trouve que c'est très difficile d'entrer dans l'intimité d'un artiste. Ouais. J'ai beaucoup aimé le Cézanne et moi, là c'est fantastique. Mais c'est un des rares exemples que je connais pas bien le cinéma pour. Voilà, au fond, je dirais que c'est peut-être plus. C'est difficile de s'approcher de quelque chose qui existe. Au fond, c'est peut-être mieux de s'approcher de quelque chose qui n'existe pas. On peut peut-être. Parce qu'en voulant retracer la vie de Van Gogh ou la vie de Modigliani, bon, il y a Modigliani joué par Gérard Philippe, évidemment, ça c'est pas mal, mais en voulant retracer la vie de quelqu'un. on devient un peu servile, on met peut-être l'art, on se plie soi-même pour la ressemblance. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose, au fond. Dans l'art, il ne faut pas chercher la ressemblance. Il faut chercher à, il faut chercher à faire jaillir une chose. Voilà. Si on se met en position, en posture de soumission ou de chercher la ressemblance, ce n'est pas le bon chemin, à mon avis.
Comment c'est, par rapport à ce prix, mais de manière générale aussi, comment c'est de faire un travail de commande versus un travail où vous êtes totalement libre de créer exactement ce qui vous...
Alors, en gros, je fais peu de commandes. Là, par exemple, là, vous avez vu ce catalogue-là que j'ai fait en Grèce. Là, la commanditaire m'a dit « Fais ce que tu veux. » Et quand c'est prêt, tu me dis qu'on installe. Voilà, ça, c'est un peu l'idéal. Et puis, avec Vincent, c'était aussi l'idéal. Parce qu'il m'a dit « Voilà, moi, j'aime cette pièce, mais après, tu fais ce que tu veux. » Et puis, pour
donc, il avait vu cette pièce-là.
Oui, il aime bien mon travail en général. Voilà. Mais il avait vu celle-là, il m'a dit « Ça, j'aime bien. » Puis, on en a parlé autour... On a parlé autour de cette pièce, justement, de l'idée de ce chemin et de ce trophée qui n'est pas un truc brillant, qui est une victoire. C'est pas une victoire, c'est une étape, hein, comme on a dit.
Un jalon.
Un jalon, voilà. Voilà. Alors, avec Vincent aussi, c'était formidable, parce qu'après ça, il m'a laissé tout à fait. Au pire, autrement, je ne fais pas de commande. Je ne fais jamais de commande.
L'autre chose qui m'a intriguée en regardant un peu votre parcours, c'est comment on passe de la sociologie aux beaux-arts, en passant par les mathématiques.
Et en passant, vous avez bien regardé là vous avez tout regardé. Oui, tout est juste, donc il n'y a rien pas de... Non, d'abord à 20 ans, on est très souple. Hein. Je pense qu'on peut passer d'une chose à l'autre et on fait des ponts qui existent. Peut-être qu'on les ferait moins quelques années plus tard. Alors la sociologie, c'est une gymnastique dans la tête comme les mathématiques, c'est une et la sculpture aussi, c'est une sorte de gymnastique. Après, on peut, c'est une façon d'assouplir les idées, et on a besoin de ça pour la sculpture, ou pour si on est médecin, ou si on est... je crois qu'on a toujours besoin d'assouplir ses propres idées, parce que la chose juste, elle vient au deuxième essai, elle vient en triturant la pâte, et c'est là qu'émerge quelque chose d'un peu plus intéressant que le simple a priori qu'on a. Donc pour moi, les mathématiques sont différentes de la sculpture, mais pas tant que ça. C'est une façon, une se fait avec la tête, puis il y a l'élégance d'un raisonnement. Une belle démonstration mathématique, c'est une œuvre d'art, parce qu'on amène un aspect, on amène l'autre, on les compare, on les associe, et puis on arrive à une forme finale. C'est de la grande élégance, puis en plus c'est assez inutile, donc c'est ce qu'il y a de plus élégant. Enfin, c'est souvent inutile. Donc on est tout près de l'art, et Einstein disait que pour qu'une équation soit juste, il faut qu'elle soit belle. C'est pas mal quand même.
Pas mal. Et donc vous avez abandonné peu à peu
les maths,
cette élégance-là.
Voilà, mais j'ai essayé de l'utiliser, c'est pas de la traduire, c'est pas une traduction, j'ai essayé de l'utiliser dans mes formes, comme ça, une forme, comment est-ce qu'on arrive d'une forme ronde à une forme carrée, comment est-ce qu'on transforme, comment est-ce qu'une arête disparaît dans l'espace, ou comment est-ce qu'elle apparaît. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui se rapproche encore de la mathématique. Et puis la sociologie, c'est un peu de comprendre un peu comment les formes s'imbriquent, hein, comment est-ce que les groupes humains arrivent à vivre ensemble ou pas vivre ensemble. Il y a aussi un rapport de... C'est pas du bronze ni de la pierre, mais c'est quand même des groupes qui se frottent, qui vont ensemble, qui s'égratignent, qui s'essaient. Au fond, on peut regarder tout sous l'angle de la sculpture, hein, quand on est sculpteur. Bon, mais enfin, ça, c'est pas une obligation.
Pas de regret.
Non, moi, j'adore mon métier.
Vous êtes égyptien d'origine.
Oui.
Vos deux parents sont égyptiens, vous êtes né là-bas.
Oui.
C'est arrivé en Suisse, à Lausanne.
En 1960, avec les frères musulmans qui avaient pris le pouvoir en 1956. les Grecs, les Italiens, les Juifs, tout le monde devait quitter, dans des conditions souvent plutôt difficiles, en ayant souvent perdu toutes les avoirs et les maisons et les biens qui étaient là-bas. Mais ça va, nous on est partis, mes parents sont toujours vivants, toujours contents de leur vie. Et ils sont à Lausanne, oui. Même s'il y a une grande rupture, disons, c'est une rupture où on perd tout,
Justement, c'était ça, c'était là où je voulais en venir. Comment on vit ce passage de... Enfin, vous étiez tout bébé, en fait. Vous étiez encore enfant.
J'avais un an quand on a pris le bateau, oui.
Mais vous avez quand même grandi dans une double culture, je suppose, si vos parents...
Non, parce que mes parents vivaient un peu à l'occidental. En Égypte, ils parlaient l'anglais, ils parlaient le français, ils allaient dans les écoles internationales. Ils faisaient du sport, donc ils étaient dans une espèce de sphère un peu particulière, disons. Moi, qu'est-ce que je peux imaginer un an sur ce bateau-là qui part d'Alexandrie et qui arrive à Ancona. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé sur ce bateau? Il faudrait que je fasse de la sculpture. Ça va remplacer tous les jouets que je n'ai pas pu prendre.
Non, vous ne l'avez pas vécu comme un traumatisme, c'est déracinement.
Non,
pas un déracinement.
Non, mais je pense qu'il y a quand même un monde imaginaire qui trotte, hein, parce que mes parents, l'Alexandrie, ce n'est pas une ville banale, hein, d'ailleurs, évidemment. Donc il y a tout un monde de ces différentes communautés qui vivaient ensemble, qui riaient ensemble, qui étaient très, très enthousiastes.
Et vous en parlez? Et vous parlez de l'Égypte?
Il y avait beaucoup une énorme communauté juive à Lausanne. Mes parents ne voyaient que des juifs. Il y avait un groupe de 60-80 personnes à Lausanne qui venaient tous de là-bas. Donc ils ont refait Alexandrie à Lausanne. En mangeant les recettes d'Alexandrie, les gags d'Alexandrie, en regardant toujours les belles femmes... parce que c'était la mode de le faire à Alexandrie. Donc voilà, ils ont fait une petite enclave alexandrine entre Lausanne et Genève, et à Paris, dans plein de villes.
D'où ce sentiment de ne pas être déraciné, parce que vous ne l'étiez pas, finalement.
On n'était pas déraciné. Non, ils ont réussi à prendre avec humour aussi. Il fallait beaucoup d'humour pour se dire... on a tout perdu, mais au fond, l'essentiel, on le garde quand même.
C'était quoi l'essentiel?
C'est le plaisir de vivre, c'est le plaisir de rigoler, c'est le plaisir d'avoir des enfants. Ils ont eu deux enfants, mon frère et moi, qui ont s'est débrouillés. Et puis le goût de bien faire. Mes parents étaient toujours des gens très soigneux dans leur travail, donc il fallait bien faire. Il ne fallait pas se dire « on nous a tout pris, ça suffit, on va se révolter ». Et on nous a tout pris, eh bien on va refaire soigneusement quelque chose, et c'est en s'engageant dans ce qu'on a en face de soi qu'on peut exister. Voilà.
Quand vous parlez de soins, je ne peux pas m'empêcher de regarder les pièces qui sont juste derrière vous. Puis je me dis, mais en fait, dans votre travail, tout est soigné, en fait, tout est soin.
Oui, il n'y a pas de choses laissées. Alors il y a des choses, il y a les hasards voulus, mais qui prennent des heures et des heures à... Est-ce qu'il ait l'air de hasard? C'est vrai que je suis quelqu'un qui travaille dans les petits détails, et j'adore les petits détails. On dit que Dieu et le diable se cachent dans les détails. Donc,
Et comment ils ont vécu votre décision de lâcher les matières sérieuses, genre la sociologie, les mathématiques, et partir dans une voie plus artistique, donc théoriquement plus...
Ils étaient très raisonnables, parce qu'ils se sont dit, voilà, il a l'air de vraiment... Puis bon, je donnais mes cours de maths, je gagnais ma vie avec en faisant des remplacements de mathématiques, donc j'ai lâché peu à peu. J'ai fait une exposition qui a bien marché, puis j'ai lâché tout à fait les cours de maths.
Donc ils étaient rassurés, ils ont vu que vous n'étiez pas totalement déluré.
Oui.
Format que j'aime bien, l'idée c'est de vous donner quelques mots-clés,
ouais.
Et puis vous répondez sans trop réfléchir.
Sans trop réfléchir.
Ça vous va si on fait comme ça?
Mais oui, allons-y.
Si je je vous dis Égypte. Qu'est-ce que vous me dites ?
Le désert, le séjour que j'ai fait en 96, c'est-à-dire il y a 20 ans maintenant. Mais c'est surtout la gentillesse des Égyptiens. C'est un peuple très doux. C'est un peuple plein d'humour et de tendresse et d'une élégante noblesse naturelle, disons. Si on regarde un paysan marcher dans le désert et dans sa... Il aura sa djellaba, mais il marche comme un danseur. Voilà, c'est ce qui m'a frappé, c'est cette élégance, cette grande douceur, disons, par rapport à d'autres pays comme le Maroc ou la Libye, où on sent plus de dureté chez l'homme. Disons que l'Égyptien est souvent un homme très doux.
Et si je vous dis, justement, danse ?
Ah, danse, c'est ce que j'aurais voulu faire quand même. Mais j'ai pas fait. J'adore bouger, j'adore toujours danser. Et je trouve qu'il y a un rapport à soi-même et en dehors de soi. Enfin, on arrive à être à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, qui me passionne. Il y a la musique qui intervient. Il y a le temps, il y a le fait d'être épuisé après un grand moment de danse, il y a le fait de danser seul ou à deux ou à trois ou à... Voilà, il y a beaucoup de belles choses dans la danse.
Si je vous dis amour.
Amour, ben c'est un moteur de vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans amour. Il faut chercher, c'est une chose difficile, l'amour, parce qu'il faut l'entretenir, il faut le soigner aussi, comme on a parlé des choses à soigner. Il y a tellement de formes d'amour. Il y a l'amour pour la famille, il y a l'amour pour une femme, il y a l'amour pour un paysage, il y a l'amour pour... J'y vois beaucoup de facettes dans cet amour. Je ne dirais pas qu'il y a un amour. Il y a une multitude de reflets qui font que l'amour est une chose qu'on ne peut pas saisir, mais qui nous attire par beaucoup de reflets.
Et si je vous dis religion ?
Alors, les plus belles choses et les plus terribles sur la planète, malheureusement, qui ont fait verser tant de larmes. Mais moi, je reste convaincu que dans toutes les religions, il y a un noyau qui est un noyau d'amour, justement, qui est un noyau d'intelligence et de compréhension du monde et de soi. Moi, je viens de la tradition hébraïque, dont je suis très fasciné. La pensée juive et l'humour juif ou la philosophie juive en tant que culture, pas forcément en tant que religion, on peut être athée ou pas athée, mais déjà la constellation de ce qui est évoqué à travers la tradition juive me passionne.
Et si je vous dis Toscane ?
Alors, Toscane, j'y vais souvent, parce que d'abord, j'adore la cuisine toscane. Non, j'aime beaucoup la cuisine italienne, en général. Mais j'y vais pas que pour la cuisine, j'y vais aussi pour aller chez le coiffeur. Parce qu'un coiffeur en Italie, c'est beaucoup plus rigolo qu'un coiffeur en Suisse. Ça discute, il y a même des gens qui s'asseyent, rien que pour discuter, qui ne se font pas couper les cheveux. Non, trêve de plaisanterie. Je vais en Toscane beaucoup pour couler mes bronzes, parce qu'il y a des fonderies qui travaillent là-bas très bien. Mais je coule aussi des bronzes en Suisse, donc j'ai un petit atelier en Toscane où je fais des petites choses et je trouve surtout le temps de regarder les choses sous un autre angle, parce que voilà, je suis beaucoup dans mon atelier, très proche de mon travail tout le temps, et ces petits écarts où on parle une autre langue, où on mange différemment avec d'autres horaires et avec un autre groupe d'amis que j'ai là-bas, voilà, ça donne un petit écart qui me plaît. Et le barbier, vous allez chez le barbier en Italie. Mais c'est vraiment le truc des garçons, hein. C'est le barbier italien. C'est... Non, mais c'est vrai que c'est fascinant.
Un dernier petit mot. Si je vous dis espoir.
Moi, je suis avec les années devenu quelqu'un d'assez sombre, malheureusement. Mais enfin, j'ai toujours beaucoup d'espoir sur plein de choses. Mais je trouve que là, il y a quand même aujourd'hui une conjonction de choses impressionnamment, d'une façon menaçante pour nos enfants et nos petits-enfants. Et je ne veux pas dire que je perds l'espoir, mais je suis devenu plus sombre. Et plus sceptique. Mais j'espère toujours plein de choses.
Quoi, par exemple ?
J'espère que... Quoi, par exemple ? Qu'est-ce que j'espère ?
Thank you.